On donne tout de suite la parole à Johanna pour son exposé intitulé « Le détournement de la critique de l'urbanisme moderne au service de la rénovation des grands ensembles ». Donc les collègues hispanophones ont le texte, donc tu as 20-25 minutes.
Ok. Je sais pas si on m'entend bien. Ouais. Donc déjà, je voulais préciser que cette communication elle s'inscrit dans mon travail de thèse. En fait, je travaille sur les politiques de rénovation urbaine des quartiers populaires de grands ensembles, et où je mène mon terrain à deux niveaux, sur deux quartiers qui sont concernés par ces projets de rénovation urbaine, qui sont situés dans la lointaine périphérie parisienne, et puis au niveau national, avec la création de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et au niveau du cabinet ministériel de Jean-Louis Borloo. J'essaye de retracer un peu la production en fait de cette politique urbaine. Voilà. Donc ici, je vais m'intéresser plus particulièrement à la mobilisation de la littérature urbaine critique dans le cadre de la rénovation et plus précisément la reformulation de la critique de l'urbanisme moderne. Alors, le rejet de la forme urbaine originelle des grands ensembles fait aujourd'hui l'objet d'un consensus unanime dans le champ des politiques urbaines. La remise en cause des fondements de l'urbanisme moderne dont ils sont issus a d'ailleurs été l'une des principales justifications mobilisées par les promoteurs de ce programme national pour la rénovation urbaine. Généralement, je vais le nommer à partir de maintenant PNRU, et que l'on nomme généralement Plan Borloo, qui a été initié en 2003 et s'est poursuivi, en tout cas pour sa première phase, jusqu'en 2014. Cette politique de rénovation avait pour objectif de ramener les quartiers de grands ensembles dans le fonctionnement normal, entre guillemets, de la ville. Et donc d'effacer la spécialisation à la fois sociale et urbaine qu'il représentait aux yeux de ses promoteurs. Plus de 10 ans après le lancement des opérations, les bilans du PNRU en matière de mixité sociale s'avèrent assez difficiles à évaluer. En revanche, son impact sur l'urbanisme des quartiers est incontestable. C'est-à-dire que les quartiers, aujourd'hui, ont été... en tout cas, leur forme urbaine a été radicalement transformée, et bien au-delà du coup de peinture esthétique que l'on avait souvent tendance à reprocher aux politiques urbaines. Afin de comprendre l'origine de ces transformations, nous voudrions ici revenir sur la critique de l'urbanisme moderne depuis les premières analyses développées dans les années 60, contre cette forme d'urbanisation jugée à la fois aliénante et assimilée à une politique de classe, jusqu'à sa reformulation par les promoteurs de la rénovation urbaine. Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à la réinterprétation des concepts de deux auteurs, savoir Henri Lefebvre et Jane Jacobs, en venant dans un premier temps sur la portée théorique de leurs analyses, puis dans un second temps sur leur traduction pratique dans le cadre de ces opérations de rénovation. Alors nous le verrons, et je le dis ici de manière assez rapide, ces opérations s'inscrivent globalement dans le champ de l'urbanisme sécuritaire. Ce dernier est généralement décrit comme la traduction de deux concepts théoriques anglo-saxons qui formulent tous deux un lien de causalité entre l'aménagement et la pratique de l'espace. Alors, la première notion est celle de l'espace défendable, théorisée à l'origine par Oscar Newman dans un ouvrage du même nom. Lui, il défend un aménagement urbain qui favoriserait une surveillance spontanée de l'espace public par des habitants organisés sous forme de communauté. Et il le dit contre l'urbanisme moderne, justement, qu'il juge déjà à cette époque criminogène. La seconde notion est celle plus connue de prévention situationnelle, issue des théories criminologiques américaines. Alors elle tente d'agir plutôt sur le calcul coût-avantage de délinquants potentiels par différents aménagements urbains. De leur côté, les travaux de Jane Jacobs sont souvent présentés comme l'une des inspirations théoriques des politiques de prévention situationnelle, parce qu'ils énoncent un lien entre la forme urbaine de la ville et sa capacité à générer la sécurité. Quant aux travaux plus critiques d'Henri Lefebvre, ils ne sont pas directement identifiés comme une source d'inspiration de ces politiques. Mais en revanche, des concepts comme le droit à la centralité urbaine ou l'appropriation de la valeur d'usage de la ville sont au cœur de l'argumentaire des promoteurs de la rénovation urbaine. Nous montrerons ici en quoi la traduction de ces concepts dans le cadre, encore une fois, je me répète, désolé, de la rénovation urbaine, non seulement s'éloignent, mais détournent leur sens initial. Donc j'en viens à ma première partie, la critique de l'urbanisme moderne. Alors, très rapidement, l'urbanisme moderne se formalise par la création des congrès internationaux d'architecture moderne en 1928 et par l'adoption d'un texte connu, devenu doctrinal, la Charte d'Athènes. Ce courant repose sur la notion fondatrice de modernité, comme rupture économique et sociale, mais surtout technique et esthétique, incarnée par la société industrielle et dont l'aménagement des villes devrait témoigner. L'aménagement du territoire, selon la pratique du zoning et les préceptes modernistes, ont eu pour effet de bouleverser la forme urbaine traditionnelle, notamment en rejetant la rue et sa diversité fonctionnelle au profit d'espaces ségrégés selon leurs fonctions économiques. Alors c'est ce rejet de l'urbanité traditionnelle qui sera l'une des principales critiques formulées par Henri Lefebvre dans Le droit à la ville, où il dénonce une tendance à la sectorisation du temps et des activités humaines par la production de l'espace. Il opposera à cette doctrine le besoin de centralité, de simultanéité et d'appropriation collective de la valeur d'usage de l'urbanité, pensée comme le lieu de l'émancipation sociale. On ne peut en effet distinguer cette critique lefebvrienne de l'urbanisme moderne de son caractère révolutionnaire. En approfondissant une lecture marxiste de l'espace comme produit de rapport de classe et empreint d'idéologie, Henri Lefebvre confère à la ville, ou plutôt à l'urbanité, une capacité émancipatoire et un rôle majeur dans une perspective de changement social. L'émancipation de la classe ouvrière, à qui il dessine d'ailleurs le droit à la ville dans son dernier chapitre, ainsi que celle de la société entière, nécessite selon lui la reconquête de cette urbanité comme environnement propice à l'émergence d'une conscience de classe et à la création de nouveaux rapports sociaux. Il explicite ainsi le rôle central attribué à la question urbaine dans l'ouvrage « Espace et politique ». Je le cite. « Si l'on veut dépasser le marché, la loi de la valeur d'échange, l'argent et le profit, ne faut-il pas définir le lieu de cette possibilité, la société urbaine, la ville comme valeur d'usage ?» Fin de citation. La conquête du droit à la ville, donc, appelle à la réalisation de la société urbaine, dont les prémices seraient selon lui déjà visibles et contiendraient les possibilités de dépassement des rapports sociaux capitalistes. Publié quelques années avant ce droit à la ville, l'ouvrage « Déclin et survie des grandes villes américaines » de Jane Jacobs propose une autre critique de l'urbanisme moderne, à partir cette fois de l'expérience new-yorkaise de la rénovation urbaine. Je préfère le dire en français, l'urban renewal. Alors, bien loin de toute tradition marxiste et universitaire, son analyse rejoindra par certains aspects celle d'Henri Lefebvre, et notamment sur la défense de la diversité fonctionnelle de la ville, et sa capacité à produire des rencontres. Jane Jacobs tente dans cet ouvrage de démontrer, par une série d'observations, ce qui, dans la forme urbaine de la grande ville, engendre un environnement propice à la vie de la cité. Elle décrit ainsi notamment comment la rue et le mélange spontané des fonctions urbaines permet aux citadins de s'approprier l'espace de leur quartier et de contribuer à leur propre sécurité par la multiplication des échanges. Alors je précise ici que la sécurité, au sens de Jane Jacobs, n'est pas réduite à un simple contrôle des actes délinquants par des citadins méfiants, comme sur le modèle de voisins vigilants qu'on a aujourd'hui, mais il s'agit plutôt d'un développement d'une vie de quartier, reposant sur des liens sociaux étroits et contre l'anonymisation des grandes villes. Elle parle ainsi d'une relation de confiance qui, je la cite, « prend forme avec le temps grâce à de nombreux, très nombreux contacts quotidiens entre les individus, qui fréquentent la même rue. Elle émane des gens qui s'arrêtent au bar pour prendre une bière, qui demandent son avis à l'épicier ou qui donnent le leur au marchand de journaux. Les habitudes varient d'un endroit à l'autre. Dans certains quartiers, on échange ses opinions sur ses chiens, dans d'autres, on les échange sur ses propriétaires. La plupart de ces contacts entre usagers de la rue sont tout à fait superficiels, mais leur somme ne l'est pas. » Fin de citation. Jane Jacobs critiquera alors vivement l'urbanisme moderne, en tant que dogme qui contribuerait à détruire ces caractéristiques propres de la vie urbaine, et donc par là à faire obstacle à l'appropriation citadine des quartiers. Elle lui opposera des préconisations pragmatiques, très urbanistiques, issues de son expérience. Par exemple, favoriser la fréquentation continue des rues par la coexistence des lieux de travail, d'habitation, des parcs ou encore des bars ouverts jusque tard dans la nuit. avoir les yeux dans la rue, les fameux « eyes in the street » qui lui sont encore aujourd'hui bien reprochés, depuis les habitations, afin de favoriser une co-surveillance spontanée de l'espace public. Elle s'oppose ici aux façades aveugles qui sont construites à son époque, et elle s'oppose aussi ici à la présence des forces de l'ordre dans la ville. Encore, multiplier les intersections de rue afin de générer un flux suffisant d'usagers dans l'espace public, etc. Alors, si l'analyse de Jane Jacobs ne questionne à aucun moment la nature capitaliste ni les enjeux de classe inhérents à la production de ce nouvel espace moderne, elle en dénonce néanmoins l'idéologie rationaliste et son impact sur le fonctionnement social de la ville. Les travaux d'Henri Lefebvre et de Jane Jacobs présentent donc deux versions de la critique de l'urbanisme moderne aux portées théoriques très différentes. Elles seront néanmoins toutes les deux reprises et mobilisées par les pouvoirs publics en vue de justifier des politiques urbaines, et notamment dans le cadre des opérations de rénovation urbaine. Ce processus de récupération de la critique n'est pas nouveau, ni spécifique aux politiques urbaines. Alors, on en a déjà parlé ce matin, je reprécise, que dans le monde de l'entreprise, par exemple, l'exemple bien connu étudié par Boltanski et F. Capello, ont montré comment le rejet de la hiérarchie et les revendications pour plus d'autonomie qui étaient prônées lors du mouvement 68 ont été par la suite mobilisées par le management pour accompagner des nouvelles formes d'organisation du travail néolibéral. De leur côté, l'idéal de la société urbaine sans classe, la conquête du droit à la ville ou encore le guide de survie des grandes villes américaines ne connaîtront pas une meilleure destinée dans le champ des politiques urbaines. Au début des années 1970 déjà, la thématique du cadre de vie et l'intérêt porté au qualitatif contre un urbanisme quantitatif forment l'argumentaire principal de la politique urbaine sous Giscard. C'est l'objet de l'ouvrage « La comédie urbaine ou la cité sans classe », d'où le titre, j'imagine, de l'atelier, dans lequel Jean-Pierre Garnier et Bruno Goldschmidt traduisent cet apparent paradoxe comme une préoccupation sincère de la bourgeoisie envers l'organisation de la vie quotidienne des travailleurs et la création d'identités citadines, c'est-à-dire débarrassées de l'appartenance de classe, face à la crainte suscitée par les nouvelles formes locales et autogestionnaires que prend la lutte des classes à cette époque. Au cours des décennies suivantes, la politique de la ville s'appuiera, elle aussi, sur une critique de l'urbanisme de plan et du technocratisme, qui a engendré un espace socialement ségrégué. Elle y opposera l'objectif salvateur de mixité sociale. C'est la période qui est étudiée par Sylvie Tissot dans l'ouvrage « L'État et les quartiers ». Elle y analyse notamment comment l'émergence des quartiers sensibles est devenue une nouvelle catégorie de l'action publique et une certaine tendance à la territorialisation de plus en plus poussée de la question sociale dans les politiques publiques. Alors, le programme national de rénovation urbaine, qui nous intéresse, nous, s'inscrit dans la continuité de ces politiques urbaines et s'approprie à son tour la critique de l'urbanisme moderne. La spécificité du PNRU tient, en plus d'un modèle économique néo-managériel, bien décrit par Renaud Epstein dans l'ouvrage « Démolition-reconstruction de l'État », en une systématisation d'un urbanisme sécuritaire, ainsi que par l'ampleur des opérations urbaines financées. C'est cette politique qu'on avait appelée le plan Marshall des banlieues. Donc j'en viens à ma deuxième partie, le détournement de la critique au service de la rénovation des grands ensembles. Les grands ensembles d'habitat social, construits au cours des années 50-60, illustrent et condensent les principales critiques à l'encontre de l'urbanisme moderne. Très tôt, leur rejet est donc passé du champ des études urbaines critiques à celle du pouvoir, jusqu'à devenir aujourd'hui un leitmotiv aux slogans usés, tels que « en finir avec les grands ensembles »,« casser les ghettos » ou encore « reconquérir les territoires perdus de la République ». Le PNRU, présenté comme une réponse aux échecs répétés de la politique de la ville, a d'emblée affiché un objectif ambitieux, c'est-à-dire de réduire les inégalités territoriales grâce à la banalisation urbaine des grands ensembles. Autrement dit, par des interventions massives sur le bâti. Alors, ces opérations, c'est quoi ? C'est la démolition massive de logements sociaux, une diversification de l'habitat par l'introduction de programmes locatifs privés ou d'accession, des réhabilitations et enfin une profonde restructuration des espaces publics, avec notamment un recours quasi systématique aux résidentialisations. Toutes ces préconisations urbanistiques sont présentées comme autant de façons de défaire l'urbanisme des grands ensembles et reprennent les concepts dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir la diversité des fonctions contre la sectorisation de l'espace, l'importance de la rue et de la centralité urbaine, ou encore l'appropriation de la valeur d'usage de la ville. Donc, comment se traduisent concrètement ces concepts dans les projets de rénovation ? Alors, tout d'abord, la nécessité de centralité urbaine contre la ségrégation induite par le zoning se traduit notamment à travers les concepts de désenclavement et de banalisation. Donc, le but affiché des opérations de désenclavement, c'est de réintroduire les quartiers dans la trame urbaine de la ville-centre et ainsi d'effacer la frontière symbolique qui les délimitait. Ces opérations de désenclavement prennent un sens sécuritaire rarement mentionné dans les documents officiels. Selon Jean-Pierre Garnier, qui déconstruit ce vocabulaire dans l'ouvrage « Un espace indéfendable », ce sont d'ailleurs ces catégories fréquemment mobilisées d'ouverture, d'accessibilité, de désenclavement, qui seraient les concepts clés d'urbanisme sécuritaire. Parce qu'ils favoriseraient avant tout une surveillance généralisée de l'espace public, mais aussi faciliteraient l'intervention des forces de l'ordre dans les quartiers. Alors, le parallèle entre le désenclavement et la sécurité est parfois bien assumé par les professionnels de la rénovation urbaine lors de nos entretiens, comme cet élu que je vais citer, donc en charge de l'urbanisme dans une des communes où j'enquête, qui me dit « Il y avait un enkystement de ce quartier qui devenait quasiment un quartier de non-droit, un quartier enclavé. Il n'y avait aucune ouverture, aucune perméabilité sur la ville. Les rues étaient bien délimitées pour faire en sorte qu'on entre et ne sorte que par un ou deux endroits. On pouvait très bien imaginer ouvrir ce quartier, le perméabiliser, le dédensifier un petit peu, pour que ça redevienne, je dirais, un quartier de droit commun. » Donc on entend ici le discours commun de la reconquête des zones de non-droit, sous couvert cette fois-ci d'opérations de désenclavement. Sur ce quartier, comme dans la plupart, les opérations vont consister essentiellement à réintroduire des axes routiers dans les quartiers. Le réaménagement des voiries peut d'ailleurs bien souvent être considéré comme le geste urbain premier de ces politiques de rénovation, qui vont orienter par la suite, si nécessaire, d'autres opérations urbaines telles que les démolitions. C'est ce que va nous confirmer un représentant d'un grand groupe de bailleurs, que je cite encore une fois. Il faut que toutes les grandes voiries communales passent ou en tout cas viennent vers ces quartiers. Et au sein de ces quartiers, on redécoupe plusieurs îlots qui sont desservis par des rues. C'est vraiment un truc qui a été imposé un peu partout. Du coup, on a aussi démoli pour ces raisons-là. C'est-à-dire que pour faire passer des voiries, pour désenclaver, il a fallu évidemment parfois démolir des bâtiments pour prolonger des rues. Donc le retour à la rue, qui était défendu par Jane Jacobs, se traduit bien souvent en un simple retour de la route, sans aucune diversité fonctionnelle, dont la fréquentation se limite au seul déplacement. Loin de réintroduire une vie urbaine intense et diversifiée dans les quartiers, il apparaît bien plus comme un moyen de réguler les usages et la circulation par un meilleur contrôle de l'espace public. J'essaie de me dépêcher un peu. En ce qui concerne la notion d'appropriation de l'espace vécu, qui consistait chez Henri Lefebvre, on l'a dit, en un réinvestissement collectif de la valeur d'usage de la ville, en vue d'une transformation des rapports sociaux, elle va être mobilisée essentiellement pour défendre les opérations de résidentialisation. Alors, la résidentialisation, en deux mots, c'est une opération qui consiste à fermer les îlots d'habitation par des grilles et des dispositifs de contrôle à l'entrée pour faire le tri entre les résidents qui ont accès à cet espace et les autres. L'appropriation de l'espace qui est attendue de ces opérations est essentiellement privative et sécuritaire. La résidentialisation peut aussi être comprise comme une application des théories de la prévention situationnelle par ses aspects les plus directement sécuritaires, comme les grilles, les badges, les caméras de vidéosurveillance, etc., puisqu'ils sont censés prévenir les usages déviants de l'espace. Par usage déviant, j'entends par exemple les regroupements dans les halls d'entrée des immeubles, qui étaient à l'époque du lancement du PNRU dans le viseur de Nicolas Sarkozy, avec sa loi sur la sécurité intérieure. Donc, d'une manière générale, la question de l'appropriation de l'espace se retrouve dans le traitement de l'espace public, des grands ensembles, en plus de cette résidentialisation, par un aménagement urbain qui consiste à requalifier l'espace public, c'est-à-dire à en prescrire clairement les usages. L'exemple le plus connu, c'est celui du City-Stade, qui ont poussé un peu partout. Un City-Stade, voilà, c'est un stade enfermé dans des grillages qui indique très bien quel usage on est censé faire de cet espace. Je vais peut-être passer à la suite. Bon, la résidentialisation, défendue par ses promoteurs comme un aménagement qui favorise une meilleure appropriation privative de l'espace, menace par ailleurs les sociabilités de quartier et les formes d'appropriation collective et politique de l'espace public qui devient considérablement réduit. Une double tendance qui est résumée ainsi en peu de mots par un habitant lors d'un entretien qui me dit qu'avec la résidentialisation, on enferme les gens entre eux mais sans qu'ils ne puissent se parler. Alors, cette phrase résume à mon sens bien le faux paradoxe que l'on observe à la vue des quartiers rénovés, c'est-à-dire un quadrillage de résidences à l'allure souvent carcérale, censé permettre une meilleure appropriation de l'espace par les habitants. Or, la seule réappropriation que l'on observe souvent, c'est les détournements inventifs des habitants de tous les dispositifs sécuritaires qui les empêchent de mener les anciens usages. Donc, par exemple, ils trouvent tout un tas de moyens pour laisser les grilles des portes des résidences ouvertes. Donc, je vais conclure, parce que je suis déjà à 20 minutes. Je vais conclure très vite en passant sur plusieurs choses. La critique donc de l'urbanisme moderne qui est véhiculée par la rénovation urbaine renvoie bien plus, on l'a vu, à une critique sécuritaire qu'à une critique sociale telle que l'avaient formulée ses premiers détracteurs au cours des années 60. Elle vise, selon nous, à contenir les problématiques sociales qui s'expriment dans ces espaces par des aménagements sécuritaires et non à dépasser le caractère aliénant de cet urbanisme par une réappropriation sociale et politique révolutionnaire de l'espace, comme l'imaginait Henri Lefebvre, ni par la réintroduction de conditions de vie intenses décrites par Jane Jacobs. Il n'y a donc pas de continuité théorique, mais une récupération dépolitisée et épurée au service d'une vision sécuritaire du traitement des quartiers populaires. Le détournement est tel que cette littérature critique n'a aujourd'hui rien perdu de sa pertinence pour déconstruire l'idéologie urbaine à l'œuvre dans la rénovation urbaine. Je m'arrête là.
Merci d'avoir tenu le temps imparti.